Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Lucas Desrodes, Pierre Monteil et Laurent Binder. Réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, ce soir, en public, au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Charlotte Garçon, Corinne Rondeau et Julien Gester pour parler ensemble de Première année de Thomas Lilti, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret, Thunder Road de Jim Cummings et nous découvrirons également Suspense, le coup de cœur de Charlotte Garçon. Boris Pinault est là avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook et Twitter. Et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le festival America, littérature et culture d'Amérique du Nord qui se déroule à Vincennes du 20 au 23 septembre. Nous ouvrons cette dispute avec Première année de Thomas Lilti, un film qui s'inscrit dans une série pour l'heure en cours, après Hippocrate en 2014, Médecin de campagne en 2016 et deux films précédents de réalisateurs, en lien eux aussi avec le monde de la médecine. Première année, c'est la première année d'études de médecine.
C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%.
Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa ? Demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand ?
On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable.
T'en dis quoi ?
Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir.
C'est Saccharose plus sèche de l'eau.
Le mieux, c'est de faire des annales, franchement.
Faut qu'on devienne des machines à répondre aux questions.
Et la fac, ça va ?
La phosphoglucomutase.
Non, mais sérieux ?
3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain.
Je veux être médecin. On s'inquiète pour toi.
Il a complètement pété un plomb.
Bah carrément.
Ah, ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai.
Tout seul, j'y arriverai pas.
Mais avec toi, c'est jouable.
T'as pris trop de retard, hein, c'est mort.
Vous pouvez prendre votre ressort.
Attends, j'en veux plus, là, j'en ai marre. On fait une pause ?
Ouais, carrément. Pause maths ?
Allez, dérivée, stat, intégrale.
Charlotte Garçon, est-ce que vous êtes en train de bachoter ? Là, vous avez plein de notes devant vous.
Oui, ça m'a rappelé la première année à la dispute, ce programme.
Comment
quotidien.
Ça ? C'était l'enfer à ce point-là ?
Écoutez, en tout cas, on doit bien lui concéder ça à Thomas Lilti, c'est qu'il sait de quoi il parle et il le fait au ras du réel.
Il était médecin généraliste.
Voilà, il était lui-même. Médecin généraliste et on est un peu... si on a fait un peu de mauvais esprit, on dirait peut-être qu'il aurait dû le rester. Enfin, quelque part, il le reste en faisant du cinéma. C'est-à-dire que je pose tout de suite sur la table le problème que j'ai avec ce film qui fait quand même partie d'une sorte de tendance lourde du cinéma français à un réalisme justement au ras de... Du réel, entre guillemets, alors un tout petit peu arrangé tout de même. Donc, la formule de ça, c'est une teneur documentaire une psychologie assez sommaire tout de même et schématique. Là, on a donc deux personnages très contrastés, deux acteurs aussi dans leur jeu, dans leur physique assez contrastés, une histoire d'amitié entre eux et donc de rivalité. On l'entend assez peu dans la bande-annonce, mais c'est quand même aussi l'histoire d'une amitié, ce film. Et surtout un fond marxiste, ou plutôt, plus exactement, bourdieusien, puisque le nom de Pierre Bourdieu est même cité par un personnage.
On l'aurait raté.
Donc c'est vraiment des héritiers. Une façon de surligner les enjeux, à savoir le fait que les étudiants de première année sont inégaux devant le numerus clausus, chose que, bon, qui n'est pas non plus une révélation absolue. Alors, les qualités du film, c'est que effectivement, dans le style de la chronique, on a tous les éléments de la vie de Carabin, qui sont passés en revue. Et ce qui ressort assez bien, c'est l'aspect massif, c'est-à-dire que c'est vrai que je n'avais pas pensé que ce concours était à ce point-là une affaire de masse, c'est-à-dire de masse à traiter dans les amphithéâtres surchargés, dans les lieux d'examen, etc. Il y a une sorte d'aspect industriel de la chose qui est assez bien rendu. En revanche, toute la partie qui est le cœur du film, à savoir comment une amitié peut se nouer, mais aussi se maintenir entre deux personnes que la lutte des classes oppose. Ça, j'ai trouvé quand même ce traitement très schématique, extrêmement schématique, et notamment, mais il vaut mieux peut-être réserver ça pour plus tard, un geste avec un G majuscule qui est accompli par l'un des deux garçons dans le film et qui est censé transcender ce naturalisme un peu banal. On a cette impression de banalité comme ça tout au long du film, jusqu'à un geste qui serait un geste d'ordre moral, qui est censé finalement, c'est un peu la plus-value de la fiction. Et alors là, vraiment, je trouve que c'est également raté, malheureusement. C'est-à-dire que ce serait une voie de sortie vers du romanesque, et je la trouve également ratée.
Ouais, on ne peut pas en trop en dire sur ce geste, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, mais celles et ceux qui l'ont déjà vu savent de quoi vous parlez. Julien Gester, pour première année.
Je ne vais faire que prolonger ce que disait Charlotte. Je trouve que ce qui se joue dans le film, en fait, tient juste à... On parle de deux mondes qui s'opposent à travers ces deux personnages, enfin qui s'opposent par le jeu de la compétition, mais avec une compétition qui n'est pas évidemment à armes égales. C'est une des thèses du film. Et le film, en fait, contient deux films qu'il essaie de faire tenir le plus longtemps possible l'un contre l'autre, qui serait d'un côté une espèce de buddy movie entre ces impossibles, de par cette notion au-delà du fossé social et des facilités.
Il y en a un qui est fils de médecin et l'autre qui triple sa première année. Hein.
Voilà. Et il y en a un, et celui qui triple sa première année, évidemment, montre moins de facilité, paradoxalement. Enfin, on devrait s'étonner de ça face au film, et on s'étonne presque que le personnage, si l'un des deux personnages découvre justement ce fossé-là dans le film, que ce soit lui, précisément. Je trouve que ça appartient à la naïveté ou à la dimension un peu fabriquée du film. Mais donc il y a ce fossé qui les oppose là, il y a la compétition, et donc il y a ce buddy movie qui est censé se mettre en place, et ce film de cette histoire d'amitié ou de bromance, comme on disait dans la comédie américaine des années 2000. Le film essaie de le coupler avec un film à thèse dans lequel Letty jette un peu tout ce qu'il met en rogne au fond, au prisme de son expérience, de tout ça. On sent bien d'ailleurs que le film est baigné de son autobiographie, parle quelque chose d'un peu hors du temps dans la patine de ce qu'il filme. C'est-à-dire qu'on est à la fois aujourd'hui, mais pas tout à fait. Il y a quelque chose qui raccorde pas totalement ces jeunes gens sur le aujourd'hui et maintenant, et qui serait quelque part probablement suspendu entre lui, ses jeunes années d'étudiant, et ce que seraient les étudiants en médecine de 2018. Ça, à la limite, je trouve que ça donne une forme de patine au film plus qu'autre chose, mais ça crée un peu de curiosité en moi. Je vois apparaître un smartphone qui ancre définitivement les choses aujourd'hui sans que je reconnaisse tout à fait le monde dans lequel je vis. Mais ce qui me semble, au-delà du fait que les deux films séparément ne tiennent pas, parce que le film à thèse justement est trop gavé de tout ce qui vraiment agace Letty, tout ce qui ne va pas, et en un sens il n'élit pas complètement quel est son sujet, quel est le combat qu'il veut donner finalement à ce film. Non pas que ça m'intéresse beaucoup de mener des combats de cette forme là mais je trouve que tout est un peu saupoudré, grainé, enfin voilà. Et il n'y a pas du tout, par exemple, sur la question de la reproduction des élites, ou de l'invention d'une élite par un concours, ce qu'on pouvait voir dans le documentaire de Claire Simon, le concours sur le concours de la Fémis, qui parlait d'un concours bien précis lui aussi, mais qui je trouve avait une ampleur de vue et une résonance beaucoup plus forte que ce film-là. Et puis, mais au-delà donc, du fait qu'aucune de ces deux parties ne fonctionne ensemble, ce qui est fou, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça ne tient tellement pas que ça finit par se dissocier. Et donc, dans le dernier quart d'heure, on assiste à l'autonomisation du film à thèse, quasiment, avec des personnages qui viennent, on ne sait pas très bien pourquoi, dire face caméra tout ce que Thomas Lilti a sur le cœur, et qui d'ailleurs, ça va être repris dans la bande-annonce, ces histoires notamment de médecins reptiliens qui alimenteront de toutes les théories du complot, etc. Et puis, l'autonomisation avec cet épilogue auquel de la fiction et du film de genre et de. Avec cet épilogue auquel Charlotte a déjà fait un sort.
Corinne Rondeau, première année, Thomas Nelty.
Oui, alors c'est un film de circonstances, on va dire, pour moi. C'est un film qui enfonce les portes ouvertes de la situation du recrutement des jeunes médecins en première année. Déjà, tout le monde le sait. Et tout le monde va être ravi de découvrir que vraiment c'est un monde de compétition. C'est un monde après Bourdieu, c'est un monde après Bachelard. Il faut mettre la société au service de l'école, non pas l'inverse. C'est dans le film. Et Bourdieu est cité, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure. Donc c'est un film qui ne fait pas de politique, qui ne fait pas de sociologie, ou alors à une certaine distance, à savoir finalement le fils de chirurgien ne sera pas forcément celui qui va réussir eu égard aux gestes du film. Et celui qui travaille beaucoup, c'est celui qui porte toute l'humanité et qui ne réussit pas. Alors forcément, à cet endroit-là, ça pose une question d'injustice dans lequel les gens vont se retrouver par rapport au travail lui-même. Aujourd'hui, la société, c'est les gens sont dissociés de leur travail, ne s'y retrouvent pas parce que ils sont plus connectés. Et le film enfonce, et c'est pour ça que je dis que c'est un film de circonstances, un film sur le travail et aussi sur la réussite, parce que c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire, tout le monde veut réussir. Sauf que ce concours, et beaucoup de... C'est-à-dire, l'université, c'est quand même ça, et l'école de médecine, la première année, c'est une cristallisation du numerus clausus. On veut ou on veut pas, démocratisation ou pas, etc., etc. Donc évidemment, quand vous dites on est arrivé à un seuil, déjà dans les années 90, on avait déjà des philosophes et des sociologues qui disaient c'est l'enfer, la compétition, la rivalité, on va droit dans le mur, on est en 2018 et on se dit bon ben voilà. Donc le film de circonstance, c'est qu'il y a plein de gens en France qui vont voir ce film en se disant il a raison, ce film est vrai, c'est ce que nous vivons tous. Bon, alors ok. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que le film, cinématographiquement, n'a aucun intérêt. Et que par ailleurs, la question du geste dont vous parliez, Charlotte, à la fin, est une manière d'essayer de récupérer quelque chose d'une dimension qui n'est même pas à l'intérieur, je dirais, de la structure narrative qui justement cherche à encercler la situation d'une certaine économie du savoir en première année de médecine.
Alors c'est vrai qu'on est là... Pour parler de cinéma, a priori, que le film nous amène à parler beaucoup de sujets. À la limite, je ne sais pas pour relancer un autre débat, mais Stéphane Brisé a une autre efficacité, qu'on l'aime ou pas, quand il fait des films avec des gros, gros messages. Alors, on peut dire que ça ne s'affine pas au fil du temps dans sa filmographie, mais c'est un fait. Moi, je parle souvent des bandes-annonces dans cette émission. Vous savez que j'aime pas trop les bandes-annonces, soit qu'elles en disent trop ou qu'elles donnent un film à imaginer qu'il n'est pas celui qu'on va avoir. Il me semble que c'est un cas d'école cette première année, si je puis dire, parce que c'est un film qui est vraiment fait pour faire une bonne bande-annonce, et de fait, je la trouve très efficace. L'ayant vu plusieurs fois en salle avant de voir le film, j'avais envie de voir ce film. Seulement, la bande-annonce est meilleure que le film, parce que le film, il est plein de trous, il a effectivement pas d'existence dramaturgique, psychologique. Je suis pas absolument pour la psychologie, mais si on veut faire un film autour de deux personnages, on peut pas les mettre au milieu d'une assemblée de fantômes, et eux-mêmes sont quand même très fantomatiques. Donc c'est vrai que le film alterne les séquences un peu comme ça, montées vite, de bachotage, et puis des scènes qui essayent d'amener un peu de dramatisation, qui sont les scènes d'examen, en gros. Mais moi, j'ai ressenti aucune tension. J'ai vu un film à trous. Vous voulez réagir l'un et l'autre, Julien Gester, d'abord.
De fait, le film est un peu une bande-annonce par bien des endroits. C'est-à-dire
ouais, un peu longue.
Pendant les 30, 40, 50 premières minutes, il n'y ait pas un geste, pas un mot, pas un objet disposé dans le cadre qui ne soit là pour transmettre une information précise, définir un cadre qui est très exactement, voilà, le saviez-vous,
ouais.
Les études de médecine, consiste en ceci, cela, telle contrainte pèse sur les uns, sur les autres, et puis il y a des ateliers, les cours rémunérés pour les uns, pour les autres, évidemment ceux qui sont dont les parents leur payent une chambre juste à côté de la fac, économisent temps par rapport à de temps par rapport aux autres qui se lèvent à 7 heures pour pouvoir s'asseoir dans le métro pour réviser. Donc il y a à la fois un côté truc et astuce, préparez votre première année de médecine et en même temps soyez édifié par chaque chose, chaque geste. Et la fiction ne peut absolument pas se déployer là-dedans. Et quand elle parvient à se déployer, j'ai l'impression d'assister à un manuel de scénario.
Charlotte Garçon ?
Oui, alors déjà, quand même, il y a un aspect qui est privilégié dans le film. On a l'impression que les beaux quartiers et le milieu intellectuel du héros qui s'appelle Benjamin, donc celui qui est fils de chirurgien, alors certes, il y a une dimension autobiographique, mais sont plus cinégéniques, intéressent plus la mise en scène. Et donc, on est beaucoup plus nourri par ce paysage, comme si la boulangerie où il y a les meilleurs pains au chocolat de Paris, je cite un dialogue du film, voilà, serait plus intéressant. Donc là, il y a une sorte de...
que le pavillon de banlieue où habite l'autre jeune garçon qu'on voit une fois.
Voilà, qui est colporté finalement jusque dans la mise en scène de manière pas forcément consciente. D'autre part, je pense que vous évoquiez Anguère, qui a des propositions, effectivement,
Stéphane Brisé.
De montage, de narration qui sont plus radicales. Pour moi, tout aussi ratées, mais effectivement, dans les intentions un peu similaires. Et justement, il me semble que ce film souffrait déjà d'un forçage final qui ressemble un petit peu au forçage de ce film-ci, sacrificiel, dirons-nous sans aller plus loin, et qui relève peut-être d'une impasse de la part du cinéaste à concilier. Alors, pas seulement ces deux types de films, mais je pense carrément le documentaire et la fiction. Ouais. Et au cœur de cela, et ça on peut lui reconnaître qu'il y a une cohérence, moi je pense qu'il s'interroge sur l'empathie nécessaire absolument à l'exercice de la médecine pour s'intéresser à la souffrance de l'autre. Et en même temps, c'est une qualité inverse à ce qu'on demande aux élèves qui sont en plein marathon de première année. Ça, c'est très clair. Mais il me semble qu'un film qui est sorti fin août de Chaque Instant de Nicolas Philibert, qui lui choisit le documentaire, finalement se pose les mêmes questions de l'empathie qu'il faut avoir pour exercer ce type de métier de soins, sauf qu'il y va. C'est-à-dire qu'il montre des gens qui sont aussi élèves, mais qui sont d'emblée plongés au contact des malades et des mourants et qui sont des élèves stagiaires en fait. Et ce qu'on n'a pas là. Là, on a finalement un milieu qui est une espèce de bulle, de bouillonnement.
Ça, vous avez qu'à voir Hippocrate.
Je l'ai vu aussi. Voilà. Ah, mais j'ai vu Médecins de campagne. Voilà.
Cette pratique, elle était là. Corinne Rondeau voulait réagir rapidement.
J'ai suivi l'ordonnance.
Non, rapidement, moi, Brisé, non. Il y a une prétention chez Brisé politique que je n'aime pas du tout. Je crois que... je vais dire...
Lilti.
N'a pas de prétention politique. Et ça, c'est quand même... Je le remercie. C'est-à-dire qu'il reste à l'endroit de humain, pas humain. C'est-à-dire la rivalité, la compétition est une déshumanisation. Et il ne veut pas aller au-delà.
Mais donc, si, déjà, il dit que le dominant peut choisir de ne pas dominer.
Oui. Mais ça fait partie des phrases qu'on entend qui nous fatiguent. Oui, et il y a des gens qui sont contents de l'entendre, pardon. Et la deuxième chose, il n'y a pas de sacrifice à la fin, je ne crois pas du tout. Ça, c'est une interprétation. Donc, moi, j'en donne une autre. Et ça, c'est bien, comme ça, on laisse le champ ouvert pour les spectateurs qui veulent le voir. Et par ailleurs, je trouve que quand même, il a une intelligence, le réalisateur, c'est de mettre Lacoste en retrait.
Vincent Lacoste
en retrait. Et ça, j'ai plutôt apprécié parce que le William Lebgill est plutôt très bon, j'ai trouvé, parce que moi je l'avais jamais vu, et je lui ai trouvé une consistance, parce qu'il a su quand même enlever, je dirais, l'iconisation qu'il y a de Vincent Lacoste, qui moi, par ailleurs, sa bouche à Elvis Presley me déplaît fortement.
Oh, allons Corinne, un petit mot, s'il y a pas le dérangement, un commentaire.
Oui, un mot via Twitter de Enjoying qui écrit sur un film d'une justesse sans équivoque. Aucun faux pas, aucun cliché, tout est vrai.
Bon. Ancien étudiant
en médecine, absolument. Allez, on en reste là pour Première année de Thomas Lilti qui est sorti ce mercredi dans les salles. À suivre, dans la dispute, Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouret, Thunder Road, de Jim Cummings et le coup de cœur de Charlotte Garçon.
La dispute. France Culture. Get the right.
Poursuivons donc cette dispute cinéma, toujours en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, le vendredi soir, avec la première incursion du cinéaste Emmanuel Mouret dans le film d'époque, son 9e long métrage. Il a choisi d'adapter un passage de Jacques le Fataliste de Diderot, comme l'avait fait avant lui Robert Bresson avec les Dames du Bois de Boulogne.
Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes?
J'ai bon espoir.
Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis?
Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive. Et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous?
J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche.
Vous vous souvenez de Madame de Jonquière?
Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage.
Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre?
Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste.
Madame, rendez-moi un service.
Lequel?
Ayez compassion de moi. Je veux la revoir.
Quel est l'état de votre cœur?
Il faut que j'aie cette fille-là, ou que j'en périsse.
Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez?
Pour moi, le compte n'y est pas.
Je crains cependant que votre entreprise soit excessive.
Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté.
Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je le forcerai à leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis.
Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société?
Corinne Rondeau, je crois que vous avez envie de jouer dans le film d'Emmanuel Mouret, mais ce n'est pas le cas. Et tiens, on va commencer par Boris Pinault qui va nous donner des éclats, des écarts et des éclats de voix venus des réseaux sociaux.
Alors pour Panciutello sur Twitter, Panciutello. Emmanuel Mouret relit Diderot avec délectation et livre une comédie de mœurs intelligente et jubilatoire. Casso Puccino écrit sur la performance d'Edouard Baird, qui compose admirablement son personnage avec un mélange savoureux de tendresse et de pathétique, et une réserve de Thierry Dujon, qui trouve le film un poil trop théâtre filmé, mais joliment troussé.
Et rien de Macato, donc pas de message.
Non, pas encore, en tout cas.
Julien Lester.
Vous plaignez des bandes annonces qui mettent tout le film dedans. Je pense que là, il doit manquer les 5 ou 7 dernières minutes, peut-être.
Ouais, 5. Voilà. Ouais.
Et le problème, malheureusement, c'est que j'ai ce sentiment qu'il manque pas grand chose entre. Alors, c'est une intrigue qu'on connaît, puisqu'elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de Diderot. Elle a transité chez Robert Bresson dans son deuxième film, Les Dames du Bois de Boulogne. Et on pourrait, du coup, attendre éventuellement d'Emmanuel Mouret, qui sait que cette histoire a fait un peu de route, ouais, qu'il en fasse quelque chose qui permet peut-être de transcender un petit peu les attentes, disons, qu'on un peu éventées qu'on pourrait avoir vis-à-vis de son récit. Et le problème, c'est que je trouve que le film est totalement, d'une lisibilité totale du début à la fin. Je parle évidemment en termes de narration. Mm-hmm. On voit tout à peu près se dessiner. Puis la bande-annonce que je viens de découvrir, en tout cas pour sa part sonore, enfin, y contribue. Mais surtout, je trouve que tout est étalé à l'image et il n'y a rien derrière, il n'y a aucun mystère dans ce film. Seulement, juste la question de peut-être aucune profondeur dans ce qui se joue à l'écran entre les personnages. Ils récitent une partition. On a un sentiment qu'ils la comprennent plus ou moins bien, enfin en tout cas qu'ils l'habitent plus ou moins bien. On n'a pas le sentiment qu'ils jouent tous à la même époque, peut-être. Parce qu'il y a quelque chose de souvent Cécile de France, un peu moins Laura Calamy aussi, mais qui essaie peut-être d'être dans une forme de parler un peu théâtral, un peu ancien, qui collerait peut-être à la langue du texte original. Alors que je trouve qu'il y a beaucoup plus de vie. Pour le coup, ça peut produire un peu de frottement, mais anachronique. Mais il y a beaucoup plus de vie qui rentre dans le jeu d'Edouard Baird, qui semble beaucoup moins s'arrêter, se faire la révérence face au texte et à la diction qui devrait lui être imprimée. Et du coup, y a, à part ces petits moments qui grincent, mais qui, je trouve, ne sont pas forcément au bénéfice du film entre les acteurs, je trouve qu'il se joue à peu près rien dans les plans, à part de temps en temps une lumière un peu gracieuse, des choses qui d'un coup transcendent un peu justement le jeu des chants contre chants ou des dialogues filmés un peu toujours de la même manière. Et le seul moment où le film vraiment s'impose pour moi comme un peu, où il s'y passe quelque chose, c'est quand un personnage qui était muet et un peu captif des autres, d'un coup acquiert une forme de, là aussi, d'autonomie, presque accède à la parole, à une forme de liberté. Et là, d'un coup, il se passe un peu quelque chose, il y a une espèce de grâce qui traverse.
C'est Mademoiselle de Jean-Pierre, voilà, en l'occurrence. Corinne Rondeau, premier regard sur ce film d'Emmanuel Mouret.
Non mais Julien de mauvaise foi, c'est évident.
Jamais, vous savez bien, Julien Gester est mauvaise foi, ça ne fait pas bon ménage.
Du point de vue de la langue, c'est quand même assez formidable. S'il de France et Édouard Baird...
C'est bien écrit, il y a des bonnes punchlines.
Je vais vous en coller une, vous savez, Julien. Non, je trouve que le film... Alors moi, je ne suis pas du tout une fan du cinéma de Mouret, mais je trouve que là, indépendamment du fait que tout le monde n'a pas lu Diderot, Jacques le Fataliste, ni vu Le Bresson, ça peut quand même intéresser beaucoup de gens de se poser la question de la différence entre le plaisir et le bonheur, mais aussi de l'amour, qui justement, en l'occurrence, montre la complexité de la relation. Moi, j'ai beaucoup aimé, au contraire du champ contre champ qu'apparemment vous n'avez fait que voir, il y a un mouvement de la caméra dans les dialogues eux-mêmes que j'ai beaucoup apprécié, indépendamment du fait que j'ai aussi apprécié les tableaux Watteau, parce que ils sont assez propres et assez bien faits. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié la dimension presque de suspense, littéralement, qui se passe autour du langage, puisqu'en fait, c'est pas que le langage, c'est en quoi le langage est ce qui va vous révéler la vérité, puisque le film repose sur la vérité de l'amour et aussi du mensonge, puisque ce qui vous plaît à vous, cher Julien, c'est la révélation du mensonge et ou de la vérité. Donc, vous avez choisi votre pas, mais le film, en fait, balance. Voilà, on va dire qu'il y a 1h20 à peu près sur le jeu de la vérité et du mensonge. Et puis, il y a la fin avec sa brutalité du réel, de la vérité, mais qui se passe aussi dans le langage. Et moi, ce qui m'intéresse, je dirais, beaucoup dans ce film, indépendamment que je suis à contre-courant de vous, c'est-à-dire que là où ça se passe, c'est pas là où ça m'a plu. Pour vous, la grâce.
Bah, vous deux, grâce. Vous aimez tout le film.
Non, alors, j'étais peut-être un peu déçue sur cette fin, justement, parce que je savais, finalement, que ce silence viendrait être interrompu ou brisé par du langage ou de la langue à un certain moment dans le film. Et puis, par ailleurs, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment ce mouvement de suspense, vraiment, entre les deux acteurs. Alors, Édouard Baird, les mains dans les poches et pas habillé en haut, j'ai pas supporté. Mais j'ai trouvé que au niveau des dialogues, c'était impeccable, mais impeccable. Et moi, j'ai été capturée, aliénée jusqu'à un certain temps dans le film. Et ce qui est beau, c'est que tout le film joue en miroir. Et Cécile de France, pour Madame de Pommeré, pour avoir la vérité, doit jouer quelque chose en miroir. Du marquis des Arcises. Et j'ai trouvé ça formidable. Et ça se révèle dans le film par une phrase qu'elle dit deux fois. Je me désole de vous désoler. Et ça, je trouve ça merveilleux.
Charles Garçon.
Oui, moi, j'ai aussi aimé le film. Je trouve que Emmanuel Mouret a une intelligence du texte. Et je trouve que le positionnement qu'il a par rapport au film de Robert Bresson, que j'ai revu pour l'avoir en tête et qui a une noirceur, je veux dire, un peu charbonneuse comme ça, et de juste après la guerre, et quelque chose de très serré et de très sec. Il a délibérément, je pense, joué la ligne claire, les couleurs, enfin bon, quelque chose de très très différent, des plans d'ensemble aussi, beaucoup de plans d'ensemble, beaucoup de plans à l'extérieur, et puis de ne pas faire une adaptation anachronique, une modernisation qu'avait faite Bresson. Donc pour moi, du coup, il se place complètement en dehors de cette cette compétition possible, et effectivement il arrive à faire entendre le texte avec plaisir construire une dramaturgie dans la parole, comme vous le disiez, et aussi donc le suspense d'une double, d'une triple révélation. C'est-à-dire que d'abord il y a un suspense qui est qu'un personnage naît, c'est pas rien que tout à coup un personnage qui donnait son nom au film mais en étant une petite chose falote, tout à coup devient une conscience, disons, désirante, et aussi une conscience morale, et en même temps, et les deux étant noués. Et donc ça, il le construit, je trouve, très bien, en faisant exactement le contraire de ce qu'avait fait Robert Bresson. C'est-à-dire que Robert Bresson s'intéressait dès le début au personnage de la jeune fille, nous montrait comment elle vivait au quotidien, etc. Alors que là, nous, non, elle est réservée, elle est un peu mise à part, et puis une orchestration un peu de finale vient créer une sorte d'épiphanie. Donc voilà, un choix dramaturgique que je trouve assez osé. Et puis d'autre part, l'enjeu qui est l'histoire d'une vengeance, c'est aussi qu'en fait, cette vengeance soit une initiation de l'homme par la femme. Donc la femme qui croit se venger de l'amant qui l'a délaissée, en fait l'initie à l'amour. Donc c'est ça l'ironie, mais je dirais l'ironie au sens où ça n'est pas un cynisme et où finalement c'est ce que j'ai aimé dans le film. C'est bête de dire un cinéaste aime ses personnages, mais ce qu'on sent, c'est que tout le monde est finalement aime, tout le monde aime, et que même en se vengeant, on se venge par amour, même en commettant le truc le plus machiavélique possible, finalement on sent qu'il y a un amour et que cet amour il est pris en charge par le metteur en scène, sans doute parce que, là encore, Mouret a lu Diderot et que Diderot n'arrête pas d'alterner son point de vue entre une critique, une ironie assez acerbe et en même temps une sorte d'empathie. On parlait d'empathie pour le film de Thomas Lilti. Là, voilà, c'est une espèce d'oscillation qui fait que c'est très plaisant du point de vue littéraire d'être baladé comme ça, mais en même temps c'est très déroutant parce qu'on ne sait pas où se positionner, et il me semble que c'est ce qui intéresse Mouret, de même que c'est ce qui intéressait Éric Rohmer. C'est pour ça qu'on le compare souvent à Rohmer, parce que Rohmer utilisait la caméra comme un outil de distanciation par rapport à ce qui était dit par ses personnages. Donc tout à coup on était détaché et on se disait ah ben oui, ils sont en train de se dire des choses, mais c'est forcément du mensonge. Et donc cette espèce de ballottement comme ça entre être avec eux, être très loin, ça se voit aussi visuellement dans le film, on est parfois très très éloigné, et je trouve que c'est assez réussi et cohérent.
Alors d'autant que chez Diderot, dans ce Jacques le Fataliste, la plupart du temps, et c'est le cas pour cette histoire, c'est une histoire racontée par un tiers et qui va évidemment faire plein de digressions. Il y a cet effet de suspense, il est là aussi dans le texte, et que je trouve qu'on le retrouve ici justement. Peut-être deux préambules, alors du coup ça ferait trois. Les Dames du Bois de Boulogne, le film de Robert Bresson, ressort en DVD, en version restaurée chez TF1 le 25 septembre prochain. Donc là, c'est une bonne chose. Deuxième préambule, moi je regrette toujours l'absence d'Emmanuel Mouret dans les films d'Emmanuel Mouret, comme je peux regretter l'absence de Woody Allen dans les films de Woody Allen, mais sauf que là, il me semble qu'il a vraiment fait le bon choix. Ça nous sépare, Corinne Rondeau, parce que moi je trouve qu'Edouard Baird est un choix alors tellement évident que ça pouvait être gênant, mais moi je le trouve absolument impeccable, y compris les mains dans les poches et un peu débraillé. Et quoi, Jester?
Je dis surtout les mains dans les poches.
Surtout les mains dans les poches. Et qu'effectivement,
un peu d'air qui rentre.
C'est un film qui m'a gagné vraiment en cours de projection, même si j'ai été très sensible à la scène d'ouverture, qui rejoint ce que vous disiez, parce qu'on est dehors. On voit personne, on entend des voix, puis on les voit arriver de très loin, cheminant les deux personnages joués par Cécile de France et Édouard Baird. Et il y a cette musicalité qu'il y a toujours chez Emmanuel Mouret. Hein. Et cette distance, vous parliez de... Ils jouent pas tous le même film, ou ils sont pas tous dans la même partition, Julien Jester. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans le cinéma d'Emmanuel Mouret, c'est qu'il y a des instruments qui sont très différenciés, comme dans un orchestre, et que l'orque à l'ami, évidemment, elle apporte une autre note, que la jeune Alice Isaz, dont on n'a pas dit le nom, qui joue pourtant le rôle titre, elle amène encore autre chose, et que voilà, moi ils sont dans une musicalité chambriste que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Charlotte ?
On peut dire que le personnage de l'ami de Madame de la Pommeraye, joué par Laure Calamy, est inventé.
Oui, et donc, il n'est pas dans Diderot, pour le coup.
Voilà, et donc au lieu de nous faire un feuilleté trop littéraire, et en mettant des artifices comme ça de flashback, d'emboîtement, d'enchassement, finalement, il a une idée aussi de scénario qui est de créer ce personnage.
Qui permet de raconter les épisodes sans...
Qui lui aussi, finalement, va s'éloigner de son ami.
Parce que c'est un beau personnage.
Oui, c'est une très bonne actrice et un personnage inventé. Et il me semble d'ailleurs que le personnage de Madame de la Pommeraye et cette amie qui n'a pas de nom échangent à un moment leur couleur de robe. Enfin, c'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose au niveau chromatique aussi dans le film. On n'en parle pas, mais c'est très important, les costumes, etc. Moi, je n'ai pas eu le sentiment que c'était un film en costume, justement, pour faire beau ou poussiéreux ou quoi. Je me souviens encore de la façon dont les robes sont en même temps des robes cap, vous voyez, il y a une espèce de... Enfin, il y a des choses qui restent en tête, des couleurs qui restent en tête, et il me semble qu'il y a un transfert de couleurs entre le vert et le rose qui se passe des choses entre ces femmes. Donc il se passe toujours quelque chose en dessous des mots, en fait, ou au-dessus, ou en même temps.
Corinne Rondeau, ou en dessous.
C'est en dessous.
En dessous des robes.
Non, moi j'abonde dans le sens de Charlotte, et j'ai bien aimé cette fin de film, quoi, ouais. Enfin, je l'ai pas aimé, mais la morale, je l'ai aimé. Enfin, c'est pas une morale non plus. Mais
c'est pour
non,
ça que vous avez aimé.
Non,
justement.
Mais non, mais en fait, c'est vrai, cette idée que le pire d'une femme qui vous aime, ce qu'elle peut vous faire de pire, si elle vous aime, ce sera toujours le meilleur pour vous.
Bim. On s'arrête là.
C'est bon.
On s'arrête là.
Mais ça fait du mal. C'est pour ça, Julien, que vous avez du mal.
Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret est sortie sur les écrans mercredi dernier.
c'est bien une plantation d'arbres. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? T'entends les oiseaux, toi?
Quel est ce son mystérieux et ces mots échangés? C'est l'heure du coup de cœur de Charlotte Garçon. Et ce coup de cœur, il est, vous le donnez au temps des forêts, un film de François-Xavier Drouet dont on vient d'entendre très court extrait de la bande-son.
Oui, vous connaissez l'expression « c'est un arbre qui cache la forêt » et il me semble que ce documentaire montre l'inverse, en quelque sorte, c'est-à-dire la forêt cache l'arbre au sens naturel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là?
Je ne vous ai pas suivi pour l'instant.
C'est qu'en fait, c'est un documentaire qui change notre regard sur la forêt, mais en réalité qui rejoint une intuition que j'ai eue, si je peux me permettre cette petite incursion autobiographique.
C'est votre coup de cœur en même temps.
Nous sommes des citadins, parfois nous sortons tout de même de la ville et il m'a toujours semblé bizarre que dans des régions improbablement qui ne sont pas des régions de forêt, il y ait tout à coup tout un massif couvert de conifères. Et ça m'a frappée, vraiment, avant même de voir ce film. Et ce film répond à cette intuition, et qui est que, effectivement, ça n'est pas naturel, et qu'au cours des siècles, on a boisé, au lieu de cultiver, par exemple, des zones de montagne, comme elles étaient très difficiles à cultiver parce qu'elles étaient en escalier, eh bien, on a planté des forêts pour faire du bois. Alors donc, ce film raconte, non pas l'histoire de la déforestation en France, mais l'histoire de la malforestation. C'est-à-dire qu'on a des forêts partout et le réalisateur va dans divers endroits, dans diverses régions, dont le plateau d'Émile Vache où il habite, dans le Limousin. Et il nous montre que là où il y a aujourd'hui des forêts, il y avait des pâturages, par exemple. Le film s'ouvre sur la voix off magnifique d'une vieille bergère, je pense vieille, je ne sais pas, je ne la vois pas, qui dit les matins sont devenus des soirs. En fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire que comme maintenant il y a des conifères, et on ne voit plus la perspective, l'horizon. Pourquoi? Bien entendu, parce que ça rapporte de planter des arbres, sauf que planter des arbres, c'est pas toujours un geste écolo, et que en fait, le film s'appelait au départ Vert désert. Pourquoi? Parce que planter des arbres de la même catégorie, qui est à 90% en France du pin de Douglas, en fait, ça tue le sol, parce qu'il n'y a pas d'humus, il n'y a pas un ver de terre, il n'y a rien, il n'y a pas d'oiseaux non plus. Donc, c'est en fait un désert, une sorte de désert au niveau de vital. Et ça, le film, dans sa forme et dans sa mise en scène, c'est un documentaire, mais il a des choix de mise en scène assez marqués, le montre et aussi le fait entendre. Il fait entendre le silence quand il n'y a pas d'oiseaux dans une forêt. Et il montre qu'une forêt avec des arbres à ce point-là alignés, c'est pas possible, c'est que ça doit pas être une forêt d'agrément et que c'est donc forcément une usine en fait, enfin un désert ou une usine. Donc le film ne dit pas grand chose d'autre sinon qu'il y a quand même des gens qui résistent à ça et il se présente comme une série d'entretiens, mais d'entretiens de ces personnes dans leur milieu. Donc ce sont des forestiers, ce sont aussi parfois des propriétaires qui ont besoin d'abattre des arbres, mais ils le font pas tous de la même manière et surtout il y en a qui font pousser des arbres d'autres races, non c'est pas comme ça, d'autres essences comme on dit, pas tout le monde, et puis il y en a surtout qui donnent le temps, c'est pour ça que le film s'appelle Le Temps des Forêts, c'est-à-dire que si vous voulez faire du rendement, vous coupez l'arbre quand il est tout petit, et puis vous en plantez un autre en le bourrant de pesticides, et sinon vous laissez l'arbre pousser jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de ce type d'arbre, à savoir du merisier quand le merisier sera à la mode dans les magasins d'ameublement. Donc voilà, on apprend à la fois beaucoup de choses et en même temps on sent quelqu'un d'impliqué dans l'imaginaire du paysage de notre territoire. Donc c'est ça, c'est ce qui m'a plu.
Le Temps des Forêts de François-Xavier Drouet, lui aussi sorti sur les écrans mercredi.
France Culture. La dispute.
Et le dernier film au sommaire de notre émission ce soir, comme tous les vendredis soirs en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est un film qui vient de recevoir le grand prix du Festival du film américain de Deauville. Il s'agit de Thunder Road, premier long métrage de Jim Cummings, qui prolonge le court métrage du même nom, primé lui à Sundance. Il le prolonge véritablement parce que la scène d'ouverture du long métrage est la même que la scène qui constituait à elle seule le court-métrage, à savoir la cérémonie funéraire de la mère du héros, interprétée par Jim Cummings également, qui est policier dans une petite ville du Texas, qui est séparée de la femme avec qui il a eu une fille.
Hi there, are you Jimmy Arnaud?
I am.
Hi, I represent a local law firm. I'm here to serve you those papers.
From a law firm? Am I getting sued? What am I getting sued for?
Not my concern.
You won't be able to see her. She's just going to be living with me.
Hey, sweetie.
Fine, just keep going.
Okay. I'm sorry, honey. Do we have to go that fast?
No. Wasn't fast.
Look, man, I'm sorry. We couldn't make it. I'm actually kind of glad you didn't.
Oh, yeah?
My mother was an extremely charitable woman. She loved Bruce Springsteen. She used to sing Thunder Road to me when I was going to sleep.
Everything go okay?
Everything went normal. It starts out and there's a harmonica.
The court has testimony that you practiced reckless behavior at funerals.
I lost my daughter tonight!
Stay down! Stop!
You're in my
fucking idiot!
You're a fucking bitch! You ruined my life!
I never ruined your life!
You ruined my life!
I saw that goddamn video! Who danced at a fucking funeral?
In my culture, we do
things that work!
What?
Okay, okay?
I'm fine. I've never been better in my life. See me wrestle an alligator, help the alligator.
Après ce solo de guitare de Corinne Rondeau, c'est à vous la parole sur Thunder Road de Jim Cummings.
Alors vous avez parlé du début de ce 10 minutes de plan séquence.
Presque.
Et bon, où vous restez, vous sortez, puisque en fait le film est une extension de ce plan séquence qui est d'une sidération totale, parce qu'au tout début je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas. Et en fait, on passe par, comme le personnage, on passe par des phases un peu cyclothymiques, c'est-à-dire des larmes au rire, on va dire, mais avec beaucoup de surprises. C'est-à-dire que j'ai été vraiment prise par le réalisateur, acteur, et,
monteur et tout compositeur.
Ce qu'on fait. Enfin, c'est l'homme orchestre, qui a, même s'il a une tête de Freddie Mercury, je dirais qu'il fait le show. Et ce show-là, moi, je l'ai trouvé toujours juste. J'ai pas trouvé qu'il y avait. J'ai cherché les excès, mais la cyclothymie du personnage qui passe, je dirais, de situations de crise de sa propre vie, puisqu'en fait tout le long du film, il perd à peu près tout ce qu'il a, son travail, son mariage, sa fille, etc.
Il se bat. Par sa mère, donc.
A commencé par sa mère, vous l'avez dit, non?
Oui.
Et donc en fait. D'abord, c'est réjouissant de voir un film américain qui est du côté plutôt de l'impuissance que de la réussite à tout craint et de la masculinité, de la testostérone. Ce type est d'une fragilité pathologique, c'est évident. Mais en même temps, je trouve que d'un point de vue cinématographique, il y a quelque chose qui nous met face à, pas qu'à un jeu d'acteur, mais aussi à un mouvement. Je dirais que son film, il a le cadrage, le mouvement, tout est en mouvement dans le film. C'est-à-dire, il n'y a pas que son jeu à lui, qui, moi, m'a personnellement à la fois bouleversé et remué autant qu'il remue lui-même. Il y a des scènes d'anthologie, hein, je veux dire, indépendamment de la première scène où, effectivement, c'est l'enterrement de sa mère, c'est juste improbable. Mais si vous voulez, ce film, c'est. Ça, au bout de 11 minutes, je crois que c'est ça le début, le temps de la durée du plan séquence, j'ai l'impression d'avoir été un peu jeté contre les murs. En pas sachant ce que c'était. Et en fait, on va avec ce type vers... au bout, quoi.
Au bout de la table de garçon.
Mais je vois pas ce qu'il y a de si surprenant à montrer un personnage qui perd les pédales, surtout dans une situation voilà intensément émotionnelle. Et en fait, j'ai été assez perplexe à la vue de cette première longue séquence. Et non pas sidéré, malheureusement. C'est-à-dire que j'ai bien vu l'intention qui était à la fois de faire rire et pleurer. On est dans une situation tragique et en même temps, il se ridiculise devant le cercueil, certes fermé, mais tout de même, de sa mère. Et en fait, je n'ai pas, I didn't buy it, comme auraient dit les Américains. Donc, j'ai pas tout à fait marché. Et le problème est que le film n'est qu'un enquillement, effectivement, de ce type de dispositif, à savoir la caméra qui souvent se rapproche lentement en zoom du personnage. Donc, il y a un côté quand même égo assez surdimensionné de cet acteur. Alors, il suffit pas de filmer un personnage de loser ou qui perd tout ou qui est dans une impuissance pour autant être véritablement soi-même humble ou je sais pas ou artistique. Moi j'ai vu quand même beaucoup de fabrication malheureusement dans ce. Je n'avais pas du tout connaissance du court métrage. J'ai lu après qu'il avait tourné ce court métrage après son divorce et en le finançant en vendant sa bague de fiançailles. Eh bien j'ai retrouvé en tout cas dans ce long métrage une hargne. Effectivement ça on peut lui. Le film est quand même aussi là-dessus. C'est-à-dire voilà. Péter les plombs, c'est aussi cracher sa colère à la société, à tout un ensemble. Alors c'est assez plaisant sur le coup d'entendre ce type qui a un accent de Louisiane, qui est assez drôle dans son côté un peu burlesque, d'humour noir aussi puisque c'est un policier qui se trouve face à des situations parfois sanglantes et qui a un traitement burlesque. On pense à Danny McBride ou à The Pineapple Express.
Grand Délire Express.
Voilà.
Comment vous dites ça ?
Grand Délire Express.
Ah oui, Grand Délire Express. Voilà.
Délire Express. Et en même temps, il me semble qu'il reste à la fois en deçà de ce type de comédie qui va très très loin et dans une psychologie un peu mignonne. Parce que vous n'en parlez pas, mais il y a quand même toutes les longues séquences ensuite avec sa fille. Il cherche à obtenir la garde de sa petite fille. Et j'ai trouvé ça d'une platitude, enfin d'une banalité voilà, qui m'a pas du tout surprise et qui m'a un peu. Et pire que ça, j'ai trouvé ce film assez passif-agressif. C'est-à-dire qu'il arrive à un point, là encore une séquence qu'on ne peut pas nommer, mais qui est une séquence de violence envers l'une des mères absentes qui s'absente du film, et que j'ai trouvé mais vraiment une sorte d'aveu de l'inconscient violent, véritablement toxique de ce type. Donc c'est pas du tout un gentil
je vous dirai
un gentil impuissant.
Après, je voulais écrire sur un bout de papier.
J'ai trouvé ce film en fait d'une violence pas tout à fait pensée quoi.
Ah oui. Bon, Julien Gester avant que j'intervienne.
Mais précisément, je trouve que c'est un peu le catalyseur de l'énergie du film, c'est cette question-là, c'est un type qui reçoit énormément de violence et qui ne peut s'empêcher d'en rendre, alors que la plupart des gens savent se tenir, des personnes adultes savent se tenir, et lui ne sait à l'évidence pas, et on a l'impression d'arriver un peu après dans quelque chose dans la vie de ce type, qui a essayé de jouer un rôle, de suivre un itinéraire, voilà, et on arrive au moment où ça dérape, en fait, où il n'arrive plus du tout à tenir ce rôle. Ça peut tenir peut-être juste à cette histoire de poste radio d'enfant qui ne marche pas et donc du coup il se met à mimer la chanson
de Bruce Springsteen. De contrairement au court métrage que j'ai vu cet après-midi parce qu'il est disponible en ligne où il y a la chanson de Bruce Springsteen et c'est beaucoup moins bien.
Et donc il a pas eu les droits peut-être avec pour celle-là.
Si, il a eu mais il a choisi de le faire ça. Ouais.
Mais donc voilà, là il se met à mimer et personne ne comprend ça et c'est évidemment c'est à partir de là que tout dérape parce que cette scène au fond elle est là pour donner la note qu'on l'achète ou pas pour reprendre l'expression en un sens elle est là pour donner la note presque la plus stridente que pourra jouer le film et à partir de là de toute façon tout s'effondre, tout se liquéfie à partir de là à la mesure de ce type qui n'arrive plus à faire son métier, qui n'arrive plus à être père et qui n'est et je pense que ce dispositif justement de plan séquence qui est donné au départ avec le voilà, il est là précisément pour instruire un rapport entre ce type justement qui n'est absolument pas à la hauteur du costume qu'à un moment donné la vie ou lui-même a voulu enfiler et le reste du monde, c'est-à-dire qu'il ne vient à aucun moment à son secours. Et donc, de fait, c'est pas n'importe quelle conséquence, c'est un plan séquence où il est souvent, on peut mettre ça sur le compte du narcissisme, mais où il est souvent assez seul avec face à une foule qui le regarde relativement passive. Parfois un peu de très légères invraisemblances, mais et qui est souvent tenu à l'extérieur du cadre et qui est en fait tenu dans cette position de spectateur qui est la nôtre, qui est donc spectatrice totalement passive et justement le regardant s'enfoncer de la manière dont il perd complètement la prise sur son existence, sur sa vie et voilà. Et donc pour le coup, le film là-dessus, je suis d'accord avec vous, aussi un peu entre Enfin, il est toujours un peu guetté par la tentation de la performance, du dispositif.
Du stand-up, en fait.
Oui, 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 mais du seul en scène, mais avec ce que justement, ce que ça charrie justement de solitude. Et je trouve que le film n'est pas du tout que ça, avec ces scènes, bon, qui vous ont pas retenu, notamment avec la fille, elles contiennent. Ou avec son meilleur ami, elles sont. Vous avez parlé de platitude. Moi, je trouve d'un très beau classicisme avec des rapports à des objets, des détails qui sont comme des notations dans la marge, qui enrichissent absolument le personnage. Il y a notamment une scène de jeu d'abord avortée puis réussie, puis dont l'explication se trouve entre les deux, qui vraiment passe au détour d'un mouvement de caméra, qui est très simple. Et je trouve le film justement qui pourtant guettait, enfin dont le sujet presque est l'hystérie. Finalement, qui saisit moins peut-être son personnage que la vie de son personnage qui part totalement en vrille. Le film, lui, arrive quand il faut à rester étonnamment sobre.
Oui, parce que je suis d'accord pour le complètement avec Julien Gester. C'est pas du tout, c'est pas mignon les scènes avec la petite fille. Et c'est là où je suis moins d'accord. Ou je crois que c'est vous qui l'avez dit. C'est pas du tout un film d'acteur de stand-up parce qu'il y a un comédien que je trouve absolument éblouissant parce qu'il est dans une imprévisibilité qui, moi en tant que spectateur, mais dans un état d'inquiétude constant, en me disant mais de quel côté il va basculer. Et moi j'ai marché tout du long comme ça, mais il est aussi cinéaste. Moi je trouve qu'il y a quand même un travail de mise en scène qui est tout à fait exemplaire. Julien a donné quelques exemples. Il y a plusieurs scènes, effectivement il y a un côté répétitif, passif, agressif, mais pour moi totalement assumé, y compris dans la scène qu'on ne dévoilera pas, mais qui vous pose problème. Je trouve que c'est au contraire extrêmement culotté de faire une scène comme celle-ci. Vous comprendrez quand vous verrez le film, ou vous avez compris si vous avez déjà vu le film, parce que c'est un geste au-delà de la limite. Et c'est ça la question. C'est la question de la limite avec lui. Et je crois que quand le film commence, effectivement, on est déjà dans l'après, parce qu'on est très surpris au bout d'un moment d'apprendre que ce type a des médailles de bravoure, que c'est un super flic avant, ou c'était un super flic avant. Corinne.
Non, mais le mec est fou.
Devenu.
Non, je le crois pas. Bah, l'idée même qu'ils disent au début « je suis dyslexique » et maman enregistrait mes leçons parce que je ne pouvais pas lire, dit déjà qu'il était hors norme et que la dyslexie, c'est aussi pas qu'un signe de « voilà, j'inverse des lettres ». Je crois que c'est vraiment la limite, elle est en deçà du film et elle prend tout le film.
Oui, mais la bascule, elle est au moment du film.
Ah oui, mais bon, total, je veux dire, à un moment donné, la pleine. Vie, enfin le réel, quand ça vous met à la limite de tout, vous devenez violent. Hein.
Absolument.
Et ça fait faire des folies.
Julien Gester.
Pardon, je ne suis pas expert, mais je pense que la dyslexie n'est pas une maladie psychiatrique, pour le coup. Lui, il perd totalement les pelades.
Non, mais d'accord, oh, ouais, mais je pense que le signe de la folie, qui n'est pas nommé comme folie, est déjà à l'intérieur de ce terme de dyslexie, qui révèle souvent d'autres pathologies que la simple dyslexie. Cher Julien.
Alors là, je ne m'engagerai pas sur ce.
Docteur Garçon.
Cette porte.
On va appeler Thomas Lilti pour.
Très glissante, pour avoir mais je veux bien rester du côté de la folie en me disant que ce dispositif, que moi je trouve un peu toc, si vous voulez, un peu Sundance, faisandé, est un faisandage, au fond, de la scène clé de Taxi Driver de Martin Scorsese, dont le fameux De Niro au miroir. Are you talking to me? Are you talking to me? Où il se scinde. Il se split en deux et où le type d'en face va sans doute aller justement commettre un acte fou. Et je suis sûre, enfin, les types de cette génération ont pris cela et l'ont complètement ingéré et intégré. Et ça fait partie de l'imaginaire de cinéaste de cette génération.
Mais moi, je ne vous suis pas là-dessus, hein, vous pouvez me regarder, ouais, cher garçon. Je vous suis absolument. En plus, j'ai revu Taxi Driver il y a 15 jours ou 3 semaines. Mais vraiment, je ne vois absolument pas le rapport, mais c'est une opinion que vous exprimez, tout comme une autre opinion qu'on va entendre par la voix de Boris Pinault.
Oui, de Christophe Despot sur Facebook, qui n'adhère pas du tout. Ce film se subit du début jusqu'à la fin et ne laisse qu'une impression, celle d'un demeuré satisfait de lui-même, prenant le monde à témoin de son génie en germe. Excellent, signe Vera Shane. Jim Cummings arrive à ce tour de force d'intégrer la limite de tout, y compris de ce qui pourrait paraître du cabotinage. Tout y est porté par une sincérité du tonnerre et une nécessité d'y aller, et il y va avec tout ce qu'il a.
Ouais, tout ce qu'il a. Et puis pas d'accord non plus, hein, Charles Grinson, quand vous comparez à Délire Express ou des films de ce genre-là que je peux apprécier vraiment, mais
parce qu'ils sont
qui
n'ont
pas du tout la profondeur de celui-là qui est drôle et qui raconte aussi quelque chose de plus.
Ah non, moi
j'ai
pas ri une seule seconde.
Ah ouais. Bon, il faut aller consulter. Mais non, toutes les positions s'expriment ici. Corinne Rondeau, vous êtes près de votre micro, vous avez envie de dire un dernier mot.
Non, mais je sais pas si j'ai ri en fait.
Ah oui, si vous avez dit
que
vous avez ri, que vous
mais
avez pleuré.
J'ai pleuré, ça oui. Bon. Ça c'est sûr.
On arrête là sur les larmes de Corinne Rondeau pour Thunder Road, Jim Cummings, qui est sorti lui aussi sur les écrans mercredi dernier. Et Sarah Dion nous a rejoint pour le jeu de la dispute qui termine toujours cette émission. D'abord, un rappel de la question d'hier au soir, Sarah.
De quel mouvement féministe Amandine Gay, réalisatrice de Ouvrir la voie, se revendique-t-elle ?
Et la réponse est ?
De l'afroféminisme.
Ce soir, tiens, je vais faire un petit aparté. On va faire gagner des invitations pour le Festival America, le Festival de littérature et culture d'Amérique du Nord, qui se déroule à Vincennes du 20 au 23 septembre. Il se trouve que France Culture y sera à plusieurs reprises. Olivia Jesper recevra vendredi prochain Jeffrey Eugenides. Christophe Nodibio y recevra lui John Irving samedi après-midi prochain. Et samedi après-midi prochain aussi, je serai moi-même à Vincennes pour l'enregistrement d'une masterclass avec Laura Kachishke, une auteure publiée en France à la fois aux éditions Christian Bourgois pour les romans et pour la poésie, les nouvelles aux éditions Page à Page. Ce sera la salle des mariages de la mairie de Vincennes, samedi prochain à 14h. Mais enfin, le festival, lui, dure du 20 au 23 et on fait gagner des invitations. Sarah, quelle est la question ?
Et la question est justement, quel auteur est à l'honneur à l'occasion de l'édition 2018 du Festival américain ?
Il y en a un en particulier ? Bon, je vais regarder le programme. Votre réponse, si vous l'avez, vous, déjà le programme, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions. Bien sûr, vous abonner au podcast pour entendre les larmes de Corinne Rondeau. Tiens, on en profite pour remercier le public qui vient régulièrement, nombreux, ici au Bel Air pour assister à nos disputes. Lundi plutôt, on sera nous en studio pour une dispute consacrée au spectacle vivant avec Anna Sigalevitch, Marie Sorbier et René Solis. Nous parlerons du père, le père, d'après Stéphanie Chaillou, mise en scène de Julien Gosselin à la MC 93 à Bobigny. Love Me Tender, d'après les nouvelles de Raymond Carver, adaptation mise en scène Guillaume Vincent au Bouffe du Nord. Et puis Infidèle, d'après Ingmar Bergman, passé par Tejestan et The Rovers, c'est au Théâtre de la Bastille. Et puis René Solis nous dévoilera son coup de cœur.